Le Grand Hebdo Territoria, le rendez-vous de vos collectivités sur Radio Territoria.
Bonjour et bienvenue sur Radio Territoria. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand Hebdo. Vous le savez, hein, l'Hebdo Territoria, c'est l'émission, le Grand Hebdo, c'est l'émission dans laquelle nous recevons des acteurs des territoires avec lesquels nous décryptons l'actualité, évidemment, économique, politique, sociale et environnementale. Alors, cette émission un peu particulière, hein, puisque nous sommes en direct du salon de l'AMIF. L'AMIF, c'est l'Association des maires d'Île-de-France, pour ceux qui ne connaissent pas l'association. Voilà, donc on est ravis d'être en tout cas présents ici. Nous avons un stand. Je suis évidemment en compagnie de Paul Meyer. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
C'est vrai qu'on a un très très beau stand. Hein.
On a beaucoup de chance. C'est un très beau salon. On a évidemment, comme toujours, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on est partenaire de l'AMIF, partenaire média pour valoriser ce bel événement. Et donc l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, qui rassemble des centaines d'élus qui sont mobilisés sur ce territoire.
Que vous connaissez, certains. Hein. Certains élus, vous les connaissez.
Et ils vous connaissent surtout, Bérénice, vous êtes tellement modeste. Et donc c'est vrai qu'on a cette chance d'être au cœur, on va dire, de ce chaudron où se rencontrent les acteurs de la vie politique, de la vie publique, mais aussi les acteurs économiques, nombre d'entreprises qui sont aux côtés des territoires, qui sont mobilisées aujourd'hui pour ce salon.
Et alors, bon, moi, j'étais pas là hier. Hein. Vous étiez déjà présent, vous, Paul, hier. Et l'ambiance, en tout cas, est très sympathique. Il y a une très bonne ambiance. Voilà, les stands sont tous très animés. On rencontre plein de gens, donc très agréable. Nous avons des invités pour cette émission. Une invitée est déjà en plateau avec nous. Il s'agit de Jessie Claude. Bonjour.
Bonjour à vous.
On est ravis de vous recevoir. Conseillère régionale et vice-présidente de la commission jeunesse, insertion professionnelle et promesses républicaines.
C'est exactement ça. C'était long à dire, mais vous n'avez pas fait d'erreur.
Alors justement, vous allez nous expliquer justement en quoi consiste la vice-présidence de cette commission. Voilà ce que ça implique au quotidien. Et nous allons parler, Paul, des Jeux Olympiques 2024, puisqu'on a la chance de les avoir à Paris.
Absolument, absolument. Ces JO qui ont été tellement bataillés, on se rappelle à l'époque de la bagarre notamment de Bertrand Delanoë, de toute la mobilisation de Tony Estanguet, de Valérie Pécresse pour obtenir ces Jeux à Paris. Donc c'est une vraie fierté. Et vont nous rejoindre pour parler de ce grand événement qui arrivera à toute vitesse d'ici maintenant moins de 2 ans. Nous rejoindra tout à l'heure monsieur Raphaël Praca. Raphaël Praca qui est maire du PEC dans les Yvelines et qui est également en charge de la commission sport pour l'Association des maires d'Île-de-France, qui va nous rejoindre juste après.
Et Valère Pelletier, directeur de la filiale RATP Solutions Ville, voilà, qui nous parlera aussi des JO, puisque la RATP, bon, la filiale de la RATP, est aussi impliquée pour ces Jeux Olympiques. Alors, on va déjà parler de cette commission dont on a parlé, Jessie Claude, dont vous êtes la vice-présidente, jeunesse, insertion professionnelle et promesses républicaines. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ?
Alors, c'est une commission dans laquelle aujourd'hui on a pu rassembler tous les enjeux que peuvent rencontrer le jeune public. Lorsqu'on parle de jeunesse, on peut parler d'éducation, mais il faut également parler d'emploi. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on veut toujours faire une formation, donc certains d'entre eux veulent se rediriger vers l'emploi. Et lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, ça rassemble tout un tas de dispositifs. Accompagner une personne vers l'emploi, c'est aussi l'aider dans la mobilité. Donc la région a mis en place des dispositifs pour l'aide au permis de conduire. À côté de ça, il y a d'autres dispositifs qui permettent aujourd'hui de rentrer dans des formations vers les métiers en tension et de manière à pouvoir combler les métiers de demain et pouvoir être employable assez rapidement. Donc l'agence de la promesse républicaine, qui est le troisième intitulé, c'est aujourd'hui l'enjeu de se poser la question: qu'est-ce que la République peut promettre à sa jeunesse? Qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes et de quelle manière on les intègre dans la société à laquelle ils appartiennent?
Les jeunes qui sont l'avenir du pays, quand même.
Exactement.
Il faut le préciser. Parfois les politiques ont tendance à l'oublier, j'ai l'impression, un petit peu.
C'est pour ça que je pense qu'ils ont tous couru sur les réseaux sociaux pour aller se faire des comptes TikTok. Ils se sont rendus compte que c'est vivant.
Alors, je ne sais pas si c'est le premier objectif, se faire des comptes TikTok. Enfin, il y a quand même d'autres choses derrière.
Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, les canaux de communication traditionnels ne suffisent plus. Et beaucoup d'entre eux l'ont compris. Et effectivement, la jeunesse, c'est un vrai enjeu. Et comment les impliquer dans la société et notamment dans leur citoyenneté?
Jessie Cyclode, vous êtes l'élu d'une des régions, voire de la région la plus jeune de France. L'Île-de-France, c'est une responsabilité immense. Tous les regards sont tournés vers cette région. La question de la jeunesse est souvent très prégnante. C'est parfois un combat, j'imagine, pour vous, de pouvoir aussi aborder cette dynamique de manière positive. On sent le poids de cette responsabilité au quotidien quand on est élu. Et puis assez jeune élu, je me permets de le dire alors, pour nos auditeurs qui ne vous verraient pas.
C'est là où c'est un avantage. Et alors, vous savez, le jeune public, je pense que quand on a un certain âge, on veut ou on ne veut pas intéresser le jeune public, il n'y a aucun problème. Mais le jeune public, il est plus difficile à convaincre, il est plus difficile à intéresser. On pourrait penser que, de par leur curiosité, leur dynamisme, c'est simple. Au contraire, c'est plus difficile de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils s'engagent, qu'il faut qu'ils votent, qu'il faut qu'ils prennent part à
la société. Parce que c'est trop lointain pour eux, peut-être ?
Je pense, oui, un, que c'est lointain. Deux, il y a une certaine forme de défiance.
Oui.
Et trois...
Pourquoi déçus ? Les parents ont été déçus ? Ça s'est répercuté ?
Non, parce que je dirais que la communication n'est pas orientée vers eux. Ils ne sont peut-être pas toujours la cible de ces institutions. Ils ne sont peut-être pas toujours la cible, ne serait-ce que des plaquettes de communication, fois, qui sont éditées. On adresse, je pense, une communication à un public d'initiés.
Et... Oui. C'est vrai ce que vous dites pour les régionales, par exemple, c'était pas très axé pour la jeunesse.
Vous savez, moi j'ai fait campagne. Je devais, et c'est ce que j'expliquais à votre collègue M. Meyer, expliquer à chacune des personnes que j'interpellais qu'est-ce que les régionales, quelle était la compétence, à quoi ça servait, qui étaient les élus en place. Et fort de cette expérience, j'ai créé un site qui s'appelle Starter Pack Citoyen et qui vise en fait à informer les jeunes et à faire en sorte qu'ils puissent avoir toutes les informations dont ils ont besoin sur un seul et même site.
D'accord, redites le nom du site, qu'on le note.
Starter Pack Citoyen.
D'accord, donc ça c'est pour la jeunesse.
Exactement.
Leur expliquer, les éduquer en fait.
Exactement. En fait, si vous voulez, on a fait les cours d'éducation civique en 5e et on s'est arrêté là.
Ouais.
Mais la citoyenneté, c'est tout au long de la vie.
Ouais, bien
C'est-à-dire que quand on dit à une personne de voter mais qu'on ne lui explique pas le même enjeu de ce vote, la personne, malheureusement, elle n'est peut-être pas toujours à même de nous écouter ou de suivre la démarche dans laquelle on aimerait l'amener à s'engager politiquement.
Alors vous, au quotidien, comment ça se passe ? Est-ce que vous allez à la rencontre de ces jeunes ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un réseau d'associations de partenaires avec lesquels je travaille très bien et qui m'ont clairement identifié en tant que conseillère régionale et qui savent déjà... C'est la raison pour laquelle je me suis engagée, la représentativité même de cette jeunesse. Et ça me permet aujourd'hui, de par certaines têtes de réseau, de pouvoir diffuser de la communication, des éléments, des dispositifs, faire aujourd'hui connaître tout ce qui est mis en place pour que les bénéficiaires puissent y avoir accès. Alors à mon échelle, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est ce que j'essaie de faire.
En tout cas, c'est très important et bravo, parce que il en faudrait plus des personnes comme vous pour éduquer la jeunesse, pour leur donner envie, en fait. C'est ça, leur donner envie de participer, de voter, de s'impliquer, en fait.
Exactement.
Un invité nous a rejoint sur le plateau. Il s'agit de Raphaël Praca. Bonjour.
Bonjour, bienvenue, alors, monsieur le maire.
Le micro de monsieur le maire n'est pas allumé. Maire de la ville Le Pecq.
Tout de suite rétablir les choses, je ne suis pas maire, je suis adjoint au maire.
Adjoint au maire.
J'adore mon maire,
mais alors,
ça m'embêterait de...
Paul,
de
vous
place.
M'avez vendu le maire de Le Pecq, enfin. Donc, adjoint au maire.
Je suis adjoint au maire en charge, entre autres, du sport dans la ville du Pecq, dans le 78.
D'accord.
Et je suis également référent de la commission sport de la MIF. Donc, c'est quoi, vous allez me demander.
Tout à fait. Qu'est-ce que la commission sport ?
La commission sport de la MIF. Donc, au sein de la MIF, la commission sport, c'est un... C'est un rassemblement d'élus en charge des sports et de directeurs en charge des sports de nos communes qui se réunit théoriquement 4 fois par an, mais c'est souvent 5 ou 6 fois sur des thèmes choisis. Et on discute de ces thèmes, on échange, on partage nos expériences, on discute de ces thèmes avec des intervenants. Je peux vous donner un exemple.
Oui, un exemple de thème, par exemple, les derniers.
Alors, on a fait une commission ce matin sur l'égalité hommes-femmes dans le sport.
D'accord.
Et comment arriver à cette...
Cette parité,
à savoir qu'en Île-de-France, on a des disparités sur tous les sujets qu'on aborde. Donc moi, par exemple, dans le 78, je suis moins touché par cette proportion à écarter les femmes des activités sportives que dans d'autres départements ou dans d'autres collectivités. Donc voilà,
quand on dit parité, parce qu'il y a des sports qui forcément attirent moins les femmes attirent plus les femmes, mais est-ce que c'est vraiment un souci ?
Ça peut ne pas être un souci. Tant que c'est une volonté de la femme
de ne pas aller dans ce sport.
Voilà. De la femme ou de la fille, d'ailleurs, d'aller dans ce sport.
Donc, oui, en revanche, c'est plus compliqué si les femmes ont envie, par exemple, de faire du football.
Voilà, une fille ou une femme qui veut faire du football, ça peut devenir un problème quand on l'empêche directement ou indirectement de le pratiquer, ou un garçon d'aller faire de la danse.
Ouais. C'est... Oui, ça va dans les deux sens,
c'est...
bien sûr.
C'est très important, d'ailleurs.
Et le football, moi, j'ai l'exemple même dans ma famille, je raconte ma vie, hein, mais j'ai une petite nièce qui était aux États-Unis et le football est très féminin. Les filles jouent le football avec
championne
les pieds,
hein,
pas le football américain.
Championne du monde, les filles américaines, bien sûr.
Et jouent beaucoup au football. Et en France, quand elle est revenue en France, c'est un peu plus compliqué. Elle a été mal perçue quand elle est arrivée dans l'équipe. C'était la seule fille, déjà. Et c'est vrai qu'elle s'est pris des remarques, etc. Et j'ai pas trouvé ça très...
C'est parce qu'elle n'est pas dans les Yvelines.
Voilà, exactement. Elle n'est pas du
ça, nous, en fait, on a une très bonne équipe de football féminin. On est très fiers, mais effectivement, c'est des vrais sujets sur lesquels on travaille dans nos commissions, on aborde, on fait un constat et ensuite on essaye de trouver des solutions, on partage nos expériences.
Et là, par exemple, juste les solutions, c'est quoi ?
Les solutions, ça peut être justement de mettre en avant le sport féminin. Donc, on en parlait ce matin, de faire sortir si on parle de football, faire sortir le football féminin à l'extérieur du terrain, par exemple, en parler dans les écoles.
Faire de la pub, en fait.
Faire de la communication, aller dans les écoles très tôt pour dire aux petites filles, oui, vous pouvez vous aussi faire du football.
Bien sûr.
C'est à votre portée.
Les infrastructures, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'AMIF, c'est évidemment ce temps fort, le salon, mais c'est tout au long de l'année un hub qui permet aux élus, aux décideurs, de penser, de prendre un peu de recul, de partager aussi des bonnes pratiques.
Ouais,
c'est important. C'est pour ça que ça comptait. On vous a confondu pour... Enfin, on a cru que vous étiez maire. Parce que c'est vrai que c'est ce lieu où se forgent les analyses, les bonnes pratiques. Et donc, c'est quelque chose qui compte et c'est ce qui fait qu'on est fiers d'être partenaire de ce beau salon. Et justement, la question qu'on voulait se poser aujourd'hui, c'était cette perspective des JO 2024 qui va irriguer tout le territoire de la région Île-de-France. Comment, dans vos délégations, dans vos responsabilités sur vos territoires respectifs, comment ces JO sont une opportunité finalement pour mobiliser un territoire, des citoyens, du côté de la jeunesse, du côté des nouvelles missions que vous voulez amener vers le sport, sur les comportements, sur les clubs, les licenciés, mais aussi sur les infrastructures. C'est un peu toutes les questions qu'on voulait vous poser aujourd'hui. Alors que
il y a notre troisième et dernière invité, Valère Pelletier.
Bienvenue,
bonjour, alors on va allumer son
Pelletier,
micro. Directeur de la filiale RATP Solutions Ville. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif
bien
du
sûr.
Sujet les JO, vous allez peut-être nous présenter brièvement, bonjour.
Bonjour à tous.
La filiale donc RATP Solutions Ville.
Oui, tout à fait, RATP Solutions Ville du groupe RATP. Je pense qu'on connaît bien la RATP, mais qu'est-ce que RATP Solutions Ville, qui a été créé en 1er janvier 2021, donc il y a un an et demi, et qui regroupe l'ensemble des activités du groupe RATP au service des villes qui ne sont pas du transport. Donc on y retrouve des télécoms, de l'immobilier, de la logistique, de l'énergie et tout ce qui est nouvelle mobilité, notamment les scooters, l'autopartage, le covoiturage par exemple.
Très à la mode du coup, le covoiturage, les scooters électriques, ça devient...
Oui, mobilité vers la transition, on en parle beaucoup hein, à ce salon, la transition elle est aussi énergétique et on y contribue à travers ces nouvelles mobilités tout à fait.
Du coup nous allons parler ensemble des JO, vous aussi à la RATP Solutions Ville, vous parlez j'imagine des JO, ça fait partie de votre travail au quotidien, vous préparez ça. C'est dans 758 jours, 5 heures et 39 minutes, c'est sur le site internet Paris 2024.
Ne soyez pas en retard, hein.
Voilà.
On se veille au grain,
on est déjà...
C'est ça. Ah oui, on est déjà en retard.
Bah, étant donné que
le
temps est passé. Déjà.
C'est vrai,
c'est
pas
vrai. Ça parce que la RATP est là, quand même.
Ils sont de moins en moins en retard.
Alors, Jessie, par exemple, les JO, est-ce que ça intéresse les jeunes ? Est-ce qu'ils sont intéressés par les JO ? J'imagine, c'est 10 500 athlètes hein, qui vont venir en Île-de-France, qui vont être logés, du coup, qui vont participer. Est-ce que ça attire, ça impressionne la jeunesse ?
Alors, il y a différents enjeux par rapport aux JO qui ont été déjà de les obtenir. Et maintenant, une fois qu'ils sont sur notre territoire, comment on permet à nos populations de s'en saisir ? C'est ça le vrai sujet. Ok, on les a, ils vont être en 2024. Comment on implique les associations, les mouvements sportifs, les établissements ? Comment aujourd'hui on peut se dire, ok, on aura besoin de tant de bénévoles, on va les trouver où ? Et du coup, pour cette problématique un petit peu des fois d'impliquer la population et ou la jeunesse sur cet événement mondial, la région a mis en place un dispositif qui s'appelle 1000 stages, où on permet en fait à des jeunes lycéens, plutôt collégiens, pour leur stage de 3e, de pouvoir venir un peu découvrir les coulisses un peu des JO, de s'y imprégner et de créer un peu la génération de volontaires, la génération 2024 qui pourra prendre pleine part en fait à cet événement mondial. Après, il y a d'autres dispositifs, d'autres canaux. On a par exemple nos ambassadeurs du sport qui sont au nombre de 76, qui eux vont dans les lycées prôner les valeurs du sport. Et on espère, de par ces canaux-là qui sont un, l'implication, et deux, la visibilité, de pouvoir impliquer notre jeunesse dans cet événement mondial. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Il y a beaucoup d'entreprises partenaires aujourd'hui qui vont prendre leur part. Mais l'idée, là, c'est vraiment de dire comment les impliquer, par quel dispositif on intègre ces jeunes dans la mise en place de cet événement.
Et juste, c'est facile de les intégrer ou pas ?
Alors, c'est assez facile parce que, si vous voulez, lorsqu'on fait cet appel à projet, on a eu déjà énormément... Enfin, pas un appel à projet, mais lorsqu'on a eu cette... On a ouvert le portail du dispositif, on a eu énormément de lycées qui ont candidaté.
Ouais.
Et du coup, il fallait avoir la capacité aussi de pouvoir encadrer ces jeunes. Il y a eu à peu près, je crois, 150 élèves de 3e qui étaient venus du 15 au 19 avril 2019. Après, bon, la pandémie a un peu stoppé l'activité.
Bien sûr, ouais.
Mais c'est d'intégrer les jeunes dans les coulisses et dans la réalisation de ces JO.
La jeunesse participe. Raphaël, alors vous, comment ça se passe au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques ?
Alors nous, dans nos commissions au sein de la MIF, on intègre forcément ces JO comme un fil rouge. C'est-à-dire qu'il y a toujours une des commissions. Les commissions de la MIF se composent ainsi. On fait une commission très locale, très terre à terre, très...
Ancrée dans les territoires.
Ancrée dans le territoire. Et une un peu plus large, et il y en a toujours une qui est liée au JO.
D'accord.
Où on invite de temps en temps la région Île-de-France qui vient nous parler de ces dispositifs qui viennent d'être évoqués, l'Agence nationale du sport, etc., pour voir comment les villes peuvent s'impliquer dans la fête que vont être les JO et comment emmener toutes les populations vers cette fête. Au final, d'où le label Terre de Jeux. Qu'on porte justement avec les communes et la MIF. Voilà, tout ce genre de choses pour que tout le monde aille dans ce sens. On reçoit aussi la Solidéo qui nous explique un petit peu toutes les...
La Solidéo qui est la société qui doit livrer les équipements, hein, donc la société d'État qui doit faire les constructions en vue des Jeux Olympiques.
Et construction et rénovation.
C'est ce que j'allais dire. Rénovation, il y en a énormément. Et ça, c'est un gros point. Hein. Il faut rénover. Alors, c'est quoi rénover ? C'est rénover les gymnases, les piscines qui vont accueillir les athlètes.
Les athlètes pour les épreuves en tant que telles, mais aussi pour les
villes. Loger.
Les loger, mais aussi les villes qui vont les accueillir pour les entraînements préalables.
Oui.
Les CPJ, les centres de préparation aux Jeux.
Oui, parce que les athlètes vont arriver avant, forcément, sur place.
Il y en a qui arrivent déjà, et donc il leur faut des équipements qui soient au...
Ah oui, il y en a qui arrivent déjà, là.
Qui viennent prendre leur marque. Quoi.
D'accord, régulièrement, pour s'entraîner.
Pour voir si les lieux vont leur convenir.
Okay.
Et c'est un moment très important, et c'est le fameux héritage dont on parle beaucoup, qu'il faut laisser, suite à ces JO, des équipements modernes, en tous les cas modernisés, et qui vont servir ensuite à toutes nos communes et tous nos territoires.
Oui, l'idée, c'est que ce ne soient pas des équipements éphémères, en fait.
Non, mais voilà, c'est ça.
Que ce soient des équipements inscrits sur la durée.
C'est ça, qui puissent convenir à une pratique quotidienne du sport dans nos territoires.
C'est vrai qu'on a eu tardivement ces JO, on le disait au début, on s'est battu pour les obtenir, on a échoué d'abord, Londres nous est passé devant, mais ça a permis aussi, par rapport aux JO, je crois, de Grèce, hein, à Athènes, qui avait été un désastre, avec des infrastructures construites qui avaient été abandonnées, qui avaient coûté très très cher. Là, il y a eu une vraie logique durable, intégrée, et c'est pour ça qu'on a aussi ce tour de table et aussi avec la RATP pour faire en sorte que le projet humain, mais aussi le projet bâti, les infrastructures aient un sens au-delà de ces Jeux Olympiques, c'est bien ça, hein ?
C'est complètement ça, je pense que la RATP a toute sa place.
Et alors justement, puisque la filière solution ville que vous avez évoquée tout à l'heure, alors vous avez parlé de nombreux thèmes assez différents les uns des autres. En quoi ces thèmes vont s'impliquer ? Comment ces thèmes vont s'appliquer dans les Jeux Olympiques 2024 grâce à votre filière ?
Oui, bien sûr, c'est d'abord par le transport que la RATP va contribuer à l'effort collectif. C'est bien un effort collectif, on est tous mobilisés là-dessus. On a des discussions précises avec Île-de-France Mobilité, qui est l'émanation de la région en charge des transports, pour définir un plan transport adapté, parce que c'est un événement exceptionnel. Et à ce titre, il faut se mettre dans votre projet, à se dire, on va avoir, et c'est plus que la période des Jeux, hein, vous l'indiquiez, les gens vont arriver plus tôt, en particulier les athlètes et les délégations. Et après, ça va se poursuivre plus loin que les seules périodes des JO ou des JOP. Donc l'ensemble du groupe sur le plan transport, aussi en termes de services clients, on va avoir donc évidemment en quantité mais aussi en typologie de clients, des clients très différents, des clients très internationaux, des clients beaucoup plus touristes que business ou pendulaires. Donc le plan transport s'adapte. Ça, c'est le cœur de métier, et je voulais le rappeler. Après, à côté du cœur de métier, et ça, c'est plutôt dans les équipes RATP Solutions Ville, que ça va se jouer, c'est faciliter la ville. On va avoir des gens qui connaissent beaucoup moins Paris et l'Île-de-France, donc il faut les aider sur tous les domaines du jeu, si je reprends une métaphore sportive, dans le sens où on parlait tout à l'heure de la logistique. La logistique, il faut que le trafic soit très fluide, y compris le trafic routier. Il faut qu'on facilite la vie des gens qui, arrivant et découvrant Paris, vont devoir, faut leur simplifier la vie.
Donc, alors, trafic routier, c'est un peu compliqué. Hein, mais
Oui, mais en fait, on a des sujets, notamment de logistique urbaine, qui viennent complexifier, puisqu'ils viennent utiliser les infrastructures routières. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des logisticiens pour mettre nos centres-bus. Pendant la journée, les centres-bus sont vides, puisqu'en fait, c'est là où, la nuit, on garde nos bus. Eh bien, on en fait en journée des plateformes logistiques éphémères. C'est-à-dire que de 8h à 17h, là où les centres-bus sont vides, on accueille des logisticiens qui vont utiliser ces infrastructures qui initialement n'étaient pas prévues pour ça, mais c'était prévu pour accueillir des bus. Eh bien, on les met à disposition pour, sans rajouter d'infrastructures, faire des points de dispatch qui viennent optimiser la livraison pour qu'il y ait moins de kilomètres. C'est bon pour l'environnement.
Et ça se fait beaucoup. Hein.
Oui, ça se fait de plus en plus, parce qu'il y a une pression, elle est multiple, la pression, elle est les bouchons,
bien sûr.
Donc les embouteillages tout simplement, elle est aussi les kilomètres. Les kilomètres, c'est de l'énergie, l'énergie, c'est du CO2. Donc on essaie de réduire en ayant un dispatching qui est plus efficace au cœur des villes.
Pour nos auditeurs qui ne sont pas parisiens, ces gares, ces dépôts de bus, ils se situent où géographiquement par rapport au cœur de Paris, pour comprendre à quelle distance on met du coup ces points de logistique urbaine
On en met, en fait, on a en tout 25 centres-bus.
Ah ouais, c'est énorme. Okay.
Donc, c'est pour que le service de bus soit le plus efficace. Hein. Donc, évidemment, ce qu'on appelle le temps perdu de se rendre au dépôt à la fin de la journée ou au début de journée, il faut le minimiser.
Ouais.
Donc, l'optimisation du service public de transport passe par un bon maillage. Donc, ça, on a des ingénieurs qui, à tout instant, en fonction du niveau du foncier, etc., vont optimiser le rattachement de nos différentes lignes. Donc sur ces centres-bus, on en a mis à disposition des logisticiens, certains qui étaient les plus névralgiques, et d'une parce qu'ils étaient bien positionnés, et deux parce qu'ils avaient des plages d'ouverture intéressantes.
Où sont-ils ceux-là ?
Et on en a donc dans le cœur de Paris, en a aussi à Boulogne, on en a
donc c'est des hubs de logistique qui seront aux portes de Paris, voire au cœur de Paris.
Exactement.
Donc on rigole pas, c'est extraordinaire, parce que trouver du foncier disponible, c'est mission impossible dans Paris et en première couronne. Donc c'est une agilité extrêmement forte.
En fait, c'est ce qui s'appelle la chronotopie, qui est dans une journée utilisée à des moments différents, des applications différentes. Donc là, nos centres-bus, les bus dorment la nuit, mais en journée, ils étaient vides, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Donc en parlant avec nos partenaires sur les marchés, on s'est dit la logistique est une bonne application. Ça, c'était un premier point sur la logistique. On peut prendre un autre sujet pour varier les illustrations. Je pense que sur la partie connectivité, les gens vont être dans les transports, ils vont vouloir regarder les épreuves en temps réel, ils vont vouloir faire des replays. Eh bien, nous allons amener la 3G, 4G, bientôt 5G dans les espaces pour que l'ensemble des...
ne soit pas saturé, en fait, non ?
Exactement. On est en train de faire une augmentation des débits pour qu'à tout instant, on soit très bien connecté, y compris les touristes qui viennent et qui veulent en live voir le replay du 100 mètres ou du... 4 fois 100 mètres neige libre.
Ah oui, et à l'inverse, je me retourne vers les élus locaux. Il ne faudrait pas que, parce qu'on est une masse de touristes sportifs, vos administrés ne puissent même plus se connecter à leur propre réseau. Parce que c'est aussi cette soutenabilité que vous permettez. Hein.
Exactement. En fait, il faut que l'exceptionnel puisse être absorbé et que la vie continue. Hein, parce qu'il y a tous les franciliens qui se disent il va se passer quoi pour moi ?
Exactement,
est-ce que je dois
disparaître
d'Île-de-France ?
C'est vraiment notre sujet. Parce qu'on a fait une émission sur la logistique, un sujet qu'on adore avec Bérénice il n'y a pas longtemps. Et justement, il faut le rappeler, habituellement, Paris n'a que 72 heures de survie sans être approvisionné logistiquement. Je pense qu'avec les JO, la masse de marchandises qu'il va falloir faire rentrer et même faire sortir dans Paris va être multipliée aux abords de Paris. Et donc c'est à ces congestions-là, donc il y aura plus de camions, plus de mouvements. Et donc c'est à ça que vous promettez de faire face et d'anticiper en mettant ce dispositif en place. C'est assez brillant.
On contribue à chacun modestement, parce que chacun amène sa pierre à l'édifice, on le fait effectivement. Je pense un autre point, il faut se rappeler que ça sera en plein été. On sera en plein été, il fera très chaud.
Les Parisiens sont partis aussi.
Donc en fait, quand on dit augmentation des flux, je pense qu'il y aura une différence entre les flux qu'on voit habituellement et les flux qu'on a pendant cette période de JO. Puisque, comme vous le disiez, il y aura un remplacement de certaines populations qui seront soit parties par choix pour ceux qui peuvent partir, mais certains voudront rester pour voir les épreuves. Hein, ça sera un moment assez exceptionnel dans la vie de Paris, donc de l'Île-de-France.
Oui, c'est plus l'Île-de-France que Paris au final, je pense.
Exactement.
Qui aura... Non, c'est important. Je vous pense, donc, monsieur le maire adjoint, cher Raphaël Fraca, donc vous disiez, oui, plus l'Île-de-France que le cœur de Paris.
Que ce sera plus l'Île-de-France que Paris.
Les spectateurs.
Les spectateurs. Ouais. Les gens ne vont pas forcément venir se déplacer en masse, vivre à Paris pendant le temps des épreuves. Ça sera plus en banlieue, je pense.
Oui, mais c'est parce que c'est notre sujet. C'est-à-dire, on sait que pour les Parisiens, moi, je suis un ancien Strasbourgeois. Les Strasbourgeois, au marché de Noël, ils s'enfuient. Ils snobent le marché de Noël.
C'est vrai.
Quand ils accueillent de la famille. Bah, je pense que ce sera un peu pareil à Paris. C'est vrai que les Parisiens qui sont mieux dotés, hein, déjà, financièrement, en général, vont peut-être un peu snober les JO, mais les millions d'habitants de l'Île-de-France, ce sera aussi des spectateurs, à mon avis, assoiffés de pouvoir participer à cette grande fête, non ?
Là où c'est intéressant, c'est de se dire, comme on disait tout à l'heure, et comme vous disiez juste avant, les Jeux, déjà, ne seront pas que parisiens. Et ce qui est bien, c'est que
important de le rappeler,
rayonnement national. Mais là, comme on est à la MIF, on va parler du rayonnement régional. Et ça va permettre à tous les autres territoires fois sont bien trop éloignés de la Grande Couronne, la petite, de prendre part, de dire, OK, on a des sites olympiques, on a des sites où on a pu accueillir des athlètes. Comment on va faire vivre nos territoires à travers ces Jeux? Et je vois que beaucoup de villes se sont battues pour pouvoir accueillir des délégations. Bien évidemment, lorsque vous avez une délégation peut-être comme celle des États-Unis, de l'Angleterre ou du Brésil qui vont être à Saint-Germain, à Argenteuil ou dans d'autres villes, ça va amener aussi le public à bouger tout au-delà et au travers de la région et ne pas se condenser.
C'est une fierté pour les communes, en fait, de recevoir. Et
Vous arrivez, les élus, vous le sentez, vos habitants sont fiers, sont heureux d'accueillir ces Jeux. Non, mais c'est bien de le dire. On parlait tout à l'heure d'Athènes, on pourrait parler du Brésil, ce qui s'est passé avec les derniers, la Coupe du Monde au Brésil. Le Brésil adore le foot, et pourtant on se rappelle des manifestations issues des favelas, parce qu'on était dans une situation économique difficile, et qui disaient, mais attendez, toute cette débauche d'argent pour la Coupe du Monde, et nous rien, et ça avait créé une fracture. Et ce qu'on entend, et ce qu'on constate, c'est que le travail des acteurs institutionnels et des élus de terrain, ça permet d'éviter cette fracture et de garder les wagons, on va dire, du train JO 2024 attachés.
C'est en ça que le label Terre de Jeux, qui a été créé pour la première fois sur ces JO, a une importance. Je me rappelle que la MIF s'était mobilisée pour ce... Le label n'existait pas, mais...
Alors, juste, vous pouvez nous rappeler ce que c'est, ce label pour les auditeurs qui ne connaissent pas.
Chaque territoire pouvait entrer, pouvait postuler sur ce label Terre de Jeu qui lui permettait de rentrer un petit peu dans la fête des JO et lui permet d'avoir ce fil rouge qui nous mène jusqu'aux JO en étant inscrit dans les valeurs du sport, les valeurs de l'Olympisme, etc. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de villes au final qui, alors je ne me rappelle plus le nombre, mais il y a beaucoup de villes qui se sont inscrites dans cette dynamique là pour faire partie de cette fête là et c'est un label qui n'existait pas avant et qu'ils sont en train de... Je parlais avec la personne ce matin du représentant qui est sur le salon.
Vous pouvez les retrouver, hein. La MIF a bien évidemment invité Terre de Jeux qui tient un stand et qui expose, au salon de la MIF. Venez les rencontrer.
Qu'il porte. Et c'est un label qui va être pérennisé sur les autres Jeux Olympiques.
D'accord.
Ceux qui sont allés voir en Italie.
Très bien.
Ça va être un label international, en fait. Enfin,
voilà, pour que les territoires participent à la fête, qu'il n'y ait pas que le petit monde sportif.
Pour embarquer les citoyens et les acteurs.
C'est génial.
C'est ça, et c'est hyper important. Et du coup, dans nos villes, dans nos territoires, nous, au PEC, on a fait des petites Olympiades la semaine dernière avec les écoles. Voilà, ça s'inscrivait dans ce label Terre de Jeu. Les gens rentrent dans, petit à petit, 2 ans avant, c'est long, 2 ans, c'est court, mais c'est long, donc les gens ne sont pas encore dans les JO dans leur tête.
Absolument.
Mais ça permet de rentrer
petit à petit, ça fait son chemin.
Dans les JO, voir que les villes qui sont centre de préparation des Jeux commencent à s'activer pour essayer d'attirer des équipes, de les faire... Il y a une histoire de tourisme aussi dans le fait de venir des équipes, parce qu'il va falloir... Ils vont s'entraîner quelques heures par jour, mais il va falloir qu'ils visitent notre Île-de-France, leur faire découvrir notre territoire. Donc voilà, tout s'organise un petit peu, et grâce à ces labels, tous les acteurs font qu'il faut faire briller notre région et notre pays, parce qu'effectivement, un jour, on ne parlera plus de villes pour les JO, ça va être des pays...
La France accueille les JO. Juste, allez, dernière question, parce que l'émission touche à sa fin, hélas. Jessie, du coup, ça fait combien de temps que vous parlez des JO aux jeunes, que vous essayez de les impliquer?
Je dirais que ça fait à peu près 2 ans qu'on essaie déjà de faire prendre conscience que les JO vont se passer chez nous. Et ça fait depuis je dirais un an que moi je sens que vraiment les gens prennent part. Il y a un engouement. Là, on se dit, comme vous avez dit tout à l'heure, 758 jours. Donc, ouais. Le décompte commence.
Et
là,
on coche dit, chaque jour. Exactement. Un jour de moins.
Mais je vous donne l'exemple. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du dispositif, les ministères de la région. C'était fort en 2019.
Ouais.
On est en 2022. Ça fait plus. Ouais. Mais vraiment que ça rentre dans l'inconscient, que les gens en parlent, que les gens arrivent vraiment à mesurer l'impact et l'importance de ces jeux pour notre territoire. Je dirais que ça fait près de 2 ans, ça fait 1 an que tout le monde y prend part et là, on va essayer vraiment de pouvoir accélérer la cadence.
Valère, concernant la RATP, ça fait combien de temps que la RATP travaille justement sur les JO, sur l'organisation autour des JO ?
Alors, je pense qu'il y avait la phase de candidature qu'on mentionnait tout à l'heure qui nous semble déjà loin, mais on avait déjà contribué à amener des idées clés, notamment sur le plan de transport, les prolongements de lignes, et ça, je parle il y a plusieurs années déjà. Et après, là, on est, comme je le disais, on est en mode projet maintenant pour délivrer, ouais. Parce que c'est en termes d'évolution de tous nos plans de transport, en termes humains, mais aussi en termes de matériel roulant, d'équipement des stations, c'est un vrai challenge.
Ça va aller vite, hein. Au final, c'est 758 jours, c'est rien pour, oui, pour préparer, pour tout mettre en place.
Il reste un peu de temps, mais oui, faut être en pleine forme.
Réactif et fort et doué comme vous l'êtes à la RATP. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été présents sur notre plateau, le Grand Hebdo. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.
À bientôt, merci.
Le Grand Hebdo, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.